Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux initiatives inspirantes pour le développement des communautés locales. Ici, nous mettons en avant des projets innovants mis en œuvre par des Enablers of Skills for Local Development, ceux qui renforcent les compétences sur le terrain avec passion et engagement. Je suis Bintou Silla, directrice du bureau de consultance SLD, fondatrice de la communauté des Enablers of Skills for Local Development, ESLD. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui préoccupe de nombreux jeunes Africains, la migration irrégulière vers l'Occident pour des opportunités économiques. Certains, après une expérience difficile sur la route migratoire, trouvent de nouvelles opportunités économiques chez eux. C'est le cas de notre invité du jour, M. Robert Alain Lipoti, fondateur de l'Association des rapatriés et de lutte contre l'émigration clandestine du Cameroun, AREC, qui, après une tentative de migration, est revenu au Cameroun pour bâtir une initiative en faveur des jeunes. Bienvenue, M. Lipoti.
Merci, Madame Bintou. Bonjour.
Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à fonder l'AREC?
Oui, d'abord, la motivation, après les études, comme aujourd'hui encore, très peu d'opportunités se présentent à nous et on se dit que c'est ailleurs qu'on pourra essayer de résoudre ce problème. Il y a mes amis qui vivaient à une certaine époque en Afrique du Nord et certains en Europe qui me demandent de partir parce que déjà, j'étais mieux à l'école. Ils me disaient, si eux, ils s'en sortent, moi, je pourrais mieux faire. C'est dans ce contexte, justement, que je partais du Cameroun pour l'Europe sur ce parcours très difficile, très compliqué. Cameroun, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc.
Wow.
J'ai vécu vraiment l'humeur, en quelque sorte. J'ai vécu comme un animal. J'ai vu des corps en état de putréfaction au désert. J'ai vu des compagnons de voyage mourir. Je me suis ravitaillé, car nous sommes ravitaillés des décharges publiques pour vivre. On a vécu comme des animaux en brousse au Maroc. Ils ont marché à pied des milliers de kilomètres pendant des mois. Ils ont été, je dirais, maltraités comme plus que des animaux.
C'était en quelle année?
Nous sommes là autour des années 2004-2005.
Ah oui. Oui. Et vous avez dû vivre, comme vous le dites, des atrocités. Vous avez quelques exemples précis.
Le voyage migratoire, finalement, c'est la famille. On se retrouve avec plusieurs centaines, voire milliers d'Africains du sud du Sahara, notamment. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens. Il y a tous les pays de l'Afrique du Sud du Sahara, sensibles aux questions migratoires que vous connaissez.
Mmh.
Donc, nous avions tous vécu dans ces conditions, dans des conditions de vie exécrables. Je le disais tantôt, une fois, nous étions à Mawari, qui est tout près de Melilla, en forêt. Il y a une dame nationalité, je pense, ivoirienne, qui était enceinte, qu'elle n'a pas fait de visite prénatale, rien, mais elle a accouché en forêt. Et la difficulté que nous faisons, c'est que comment faire pour séparer l'enfant avec le nombril ombilical? Et il a fallu le courage d'un jeune guinéen en coupant le nombril avec les dents. Raison pour laquelle, justement, nous avions pensé qu'il était temps de créer, quand nous sommes rentrés au niveau du Cameroun, l'Association des rapatriés et des luttes contre l'immigration rentrée du Cameroun, qui a quelques objectifs, l'éducation à la migration qui manque en Afrique du Sud du Sahara, la sensibilisation sur les risques et les dangers des migrations qui libèrent la traite des personnes, la formation et surtout la réintégration durable.
Mmh.
Nous allons en parler sur d'autres questions économiques.
Tout à fait. Et vous parlez d'un retour. Et qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Cameroun?
Notre attaque massive a été organisée. On a ratissé toute la ville et fait ressortir tout le monde. J'étais l'un des premiers Africains à dire, du moins les Africains du sud du Sahara, à dire je dois rentrer. Parce que je trouvais que ma vie n'était pas là-bas et que je vivais depuis plus d'un an comme un animal. Je n'avais pas de dignité, je n'avais pas de valeur, je ne méritais pas tout cela. Donc, c'est dans ces conditions que nous rentrons. Ma volonté était personnelle, très engagée,
oui.
Mais il faut préciser que c'était une initiative, n'est-ce pas, de l'Union européenne, certainement, le Maroc et le Cameroun.
Oui, et donc c'était dans un cadre bien précis et organisé. J'imagine qu'on vous a donné un pécule pour pouvoir faire une activité économique à votre retour.
Il faut déjà dire que quand nous rentrons, je précise bien le compte, nous sommes en 2005, on a reçu 45 000 francs CFA chacun, et puis on nous a promis de nous rappeler jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans, personne ne nous a appelé, nous n'avions pas reçu de financement.
Ah, et donc, dans le cadre de la REC, vous menez des activités de sensibilisation et de formation des jeunes. Et comment est-ce que vous avez décidé d'orienter la REC vers ce type d'activité ?
Comme dit, la première chose qui se dégage, c'est l'information, c'est l'éducation. Il y a peu de personnes ou presque ne sont au courant de ce qui se passe réellement sur cette route migratoire. Et donc, nous avons mis un accent sur l'éducation à la migration, la sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière et l'attrait des personnes. Maintenant, au niveau de la réintégration, ça c'est de manière globale, que ce soit les formations ou d'autres activités. Nous mettons sur pied des activités, par exemple, le temps sur l'agriculture. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole qui a des millions et des millions de terres arables. Et on n'a même pas besoin d'utiliser de l'engrais pour cultiver au Cameroun. Nous nous sommes dit, et aussi et surtout, des personnes que j'ai rencontrées, que nous avons rencontrées au long de ce voyage, qui étaient des personnes nantis, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. Ce ne sont pas des fonctionnaires comme cela se fait dans pas mal de pays. Et donc, nous nous sommes dit, si nous nous investissons dans l'agriculture, il est fort possible que nous puissions tirer notre épingle de jeu. Donc, c'est dans ce contexte, c'est dans ce registre que nous nous sommes dit d'investir dans l'agriculture en tenant compte des valeurs dont je venais d'énumérer tantôt, un pays essentiellement agricole, où il y a beaucoup de terres, où c'est fertile. Nous nous sommes dit, on peut faire quelque chose. Toutes ces deux expériences nous ont permis d'avoir plusieurs tonnes de récoltes de bananiers, plantains et d'ignames, et d'avoir assez d'argent qui nous a permis de continuer à développer nos activités dans les écoles, auprès des communautés, dans les masses médias, bref, partout où on était sollicité pour partir, où on avait des possibilités pour mener des activités de sensibilisation. À un moment donné, nous nous sommes dit qu'il faut passer d'une autre étape. Le cacao étant aussi l'une des cultures essentielles au Cameroun, et nous nous sommes dit, il faut justement qu'on fasse quelque chose de pérenne, et que si chaque migrant peut avoir un hectare de cacao, ça pourra beaucoup nous aider à créer une semi-industrie, labelliser nos produits. Si un jour on peut avoir le chocolat le migrant, ou alors d'autres dérivés de la cosmétique et tout ce que nous connaissons qui entrait à la migration, nous assurer quelque chose de fondamental.
Et vous avez déjà le matériel pour la transformation, parce que vous parlez du chocolat du migrant.
Rien du tout. Ça, c'est un projet. C'est notre souhait.
C'est votre
souhait. C'est déjà un pari gagné parce que, effectivement, voir que nous avons déjà des plants qui évoluent, qui sont plus de 2-3 mètres, qui produisent déjà, c'est une énorme fierté.
Tout à fait.
Il y a des hommes de bonne volonté, qui peuvent, les organisations, que ce soit sur le plan sous-régional ou international, qui peuvent nous venir en aide.
Mais j'ai une question. Est-ce qu'il s'agit des migrants qui reviennent au Cameroun ou il y a quand même une certaine prévention, c'est-à-dire aussi prendre des jeunes qui sont candidats à la migration, si je puis dire, qui veulent partir vers l'Occident?
Nous faisons les deux, les rapatriés qui sont de retour, très rapidement, nous les orientons, nous leur disons, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous vous conseillons de faire pour être stable et autonome. Maintenant, les jeunes en fin de formation, en fin d'études, quand nous les sensibilisons, nous les présentons les dangers, nous les éduquons sur les dangers de la migration irrégulière et tout ce que cela importe, nous leur disons, OK, que de prendre de l'argent que vous aviez pour mettre sur un projet de migration qui ne va jamais aboutir, il est fondamental de prendre cet argent et le mettre sur un projet agricole. Je rappelle que le kilo de cacao aujourd'hui au Cameroun, c'est plus de 5000 francs. Pour nous, le développement de l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, selon pas l'agriculture.
Tout à fait. Et quel type d'activité de formation vous donnez et comment vous assurez que les compétences sont acquises?
C'est de manière simple, hein, théorique et pratique en même temps. Nous sommes beaucoup plus pratiques en fait parce que nous souhaitons justement un projet pérenne.
C'est ça.
Comme ça, au sein de la REC des ingénieurs agricoles, nous avions des personnes qui soutiennent le projet, qui estiment qu'il n'est pas question que les jeunes continuent à partir au péril de leur vie, qui viennent en tant que bénévoles, qui sont des professionnels en agriculture, de tout ce que vous imaginez autour, qui carottent autour de l'agriculture. Ce n'est pas seulement le cacao, c'est le manioc, c'est le macabo, c'est les ignames, c'est d'autres. Mais il y a aussi d'autres pilars de formation, le secrétariat informatique, dans la mécanique, dans la surtout des formations qui ne sont pas très longues. Tout de suite, vous allez, il fait 3 mois vous travaillez, il fait 3 mois vous récoltez.
C'est ça. Et si vous compariez votre vie actuelle à celle que vous imaginiez en Occident?
Déjà, au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Europe, que j'y ai vécu, je vous ai dit à l'entame que je n'étais pas un être humain. Je n'étais pas un être humain, je n'avais pas de considération, je n'avais pas de dignité. Et donc, aujourd'hui, je me sens très épanoui. Je suis auteur, je suis président d'une ONG. Quelques mois, c'est toutes les diocèses du Cameroun que j'avais formé sur les questions de traite et de trafic des êtres humains.
Oui.
Je suis également auteur d'un ouvrage qui retrace ce parcours du Cameroun jusqu'en Europe, ce parcours malheureux.
Quel est le nom de votre ouvrage et où est-ce qu'on pourrait trouver cet ouvrage?
L'ouvrage, pour des personnes qui ont besoin d'un ouvrage, elles peuvent me contacter directement.
Je vais être un peu directe. Vous êtes un bel exemple de retour réussi. Mais nous savons que un grand nombre de migrants retournés repartent, refont ce chemin difficile de la migration, faute de perspectives d'avenir dans leur pays de retour. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui, effectivement, rentrent mais se retrouvent de nouveau face à de grandes difficultés?
Ce n'est que des personnes vraiment, des militants, qui sont dans le sujet, qui travaillent sur le sujet depuis des années, qui peuvent vous dire ce qui se passe. Les jeunes qui repartent, ils ne repartent pas parce que c'est forcément les perspectives qui ont manqué. Il faut d'abord questionner leur antériorité.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui s'est passé avant de partir? Si vous partez du Cameroun, après avoir, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, dérobé l'argent de quelqu'un, 2-3 millions, croyant qu'arrivé en Europe, vous allez rembourser cet argent aussitôt, quand vous êtes rapatrié, vous savez que vous avez une dette, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. On dit seulement qu'ils sont revenus, ils sont repartis. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, avant de partir, je parlais de leur passé, qui ont volé de l'argent des gens, qui, avant de partir, ont vendu les biens familiaux, qui, avant de partir, ont fait des gaffes. Ce type de personnes, j'en connais.
C'est très intéressant, parce que je comprends bien qu'en plus de la réinsertion économique, il faudrait ajouter une réinsertion sociale et même apporter aussi l'expertise de juristes.
Je voudrais continuer en disant justement que ce qui reste, il faut dire que tout le monde est tout à fait d'accord que les enveloppes qui sont généralement données à ce migrant en termes de réintégration ne sont pas des enveloppes assez importantes. Parce que si vous enlevez par exemple 800 000, vous donnez à un migrant qui est rentré, qui est parti 5 ans. C'est vrai, 800 000 c'est beaucoup d'argent, il n'avait pas ça. C'est bien assez difficile parce que ce migrant doit manger. peut-être qu'il n'a même pas où rester. Mm-hmm. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ils ont reçu cet argent. Et c'est en deux parts. On vous donne d'abord 500 000. Et puis, vous revenez avec les factures pour compléter les 300 000 restants. Donc, il y a certains, après avoir vu cet argent, ils ont plutôt préféré, n'est-ce pas, acheter des choses, aller vers des familles pour les donner, pour acheter des habits qui sont restés là. C'est ce que beaucoup ne comprennent. Ça, c'est des choses que nous connaissons. C'est une exclusivité de le dire aujourd'hui parce que c'est un sujet important pour lequel ceux qui travaillent, ce qui montre des projets, des sociologues et d'autres personnes qui doivent être invitées, doivent, et les bailleurs de fonds surtout, doivent savoir qu'il y a quand même un seuil. Si on ne peut pas donner ça aux migrants, on va continuer à avoir toujours et toujours des taux de réussite
faibles. En plus de donner de l'argent, je pense qu'il faut aussi encadrer le migrant de retour, lui donner des formations en gestion financière, comment gérer cet argent-là, comment développer une activité économique, comment faire fructifier cet argent. Parce que vous nous dites que voilà, ils vont donner l'argent à la famille, c'est vrai, c'est bien, c'est notre culture africaine. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser ce migrant de retour à dire c'est peut-être aussi bien de mettre une bonne partie des fonds dans l'agriculture ou d'autres activités et faire fructifier cet argent pour pouvoir justement donner un peu plus à la communauté, à la famille, etc. Donc, y a aussi un problème aussi d'encadrement, de formation de ce jeune qui...
Non, oui, c'est ce que vous dites. C'est ça, un peu autre. Mais tu dis, oui, justement, depuis un certain temps, l'OIF, par exemple, procède à des formations, mais des courtes formations. En fait, des très courtes formations.
C'est pas suffisant.
Du coup, c'est pas la formation. Si on vous forme que les moyens nécessaires ne suivent pas. Alors, je voulais dire au niveau de la règle qu'on nous présente comme des personnes qui voulaient aller en Europe, vous l'avez si bien mentionné, qui n'ont pas réussi, qui sont rentrés, mais qui ont plutôt réussi sur place. On peut devenir riche sur place. J'apprécie un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, pays producteur mondial de cacao, je pense bien. Je suis certain que là-bas, il y a des grands producteurs de cacao. Ils n'ont même pas besoin de quitter les cheveux. Ils n'ont pas besoin. Un peu également comme ici, il y a quand même des success stories. Ils n'ont même pas besoin. Ils peuvent aller pour se balader, pour regarder. Il y a des gens qui ont réussi ici, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs, notamment en Europe. Okay. Et la tendance est en train de se renverser.
Monsieur Lipoti, excusez-moi. Avant de terminer, on va vers la fin du podcast. Et si on vous proposait aujourd'hui de repartir en Occident?
Non.
Non.
Je ne dirais pas. J'y suis souvent reparti pour des formations, on vit pour des séminaires, pour des forums sur la migration et autres. Je reviens au Cameroun parce que c'est ici qu'il y a à faire, c'est pas là-bas.
Précisons qu'on parle de migration irrégulière, parce qu'il y a à côté de ça la migration régulière. Alors,
tout à fait.
Que conseillerez-vous aux jeunes qui veulent partir illégalement?
Je les comprends. La migration est un droit fondamental, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et il faut également rappeler que la migration est un vecteur du développement. Elle profite à tout le monde quand elle est faite. Aujourd'hui, on parle d'une migration surordonnée et régulière. Si c'est dans ce cas, vous êtes en situation régulière, vous pouvez partir. Il y a des pistes de migration régulière au Canada, aux États-Unis, en Europe et tout. Vous pouvez partir. Mais si c'est pour partir de manière irrégulière, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a plus de difficultés que de réussites. Aujourd'hui, sur 10 Africains qui partent, qui quittent leur pays, à peine un arrive en Europe, à peine un. Et si vous parvenez à arriver, vous commencez une autre étape, parfois qui n'est pas très bien connue, dans la traite des personnes, dans des syndicats de crimes et d'autres histoires très compliquées qui ne peuvent pas vous faire réussir. Et si vous vous avez la grâce comme ça de réussir, vous allez attendre 5-10 ans. Et ça commence même à être davantage, plus les années passent, plus les choses se compliquent davantage. Et il faut préciser également que lors de la dernière journée internationale du Migrant, le 18 décembre dernier, les chiffres de l'OIM font froid au dos. On vous dit, les dix dernières années, c'est 63 000 corps qu'on a découverts dans la Méditerranée et le désert. Et nous croyons que c'est beaucoup plus que ça. Parce que, en Méditerranée, il y a des gens qui fouillent, qui regardent, mais au désert, il n'y a personne qui est là pour voir. Et vous savez très bien que quand les migrants meurent au désert, où il y a quelques jours, juste quelques jours après, le sable vient couvrir tout ce corps-là. Donc, on ne voit rien. Donc, il n'y a plus de personnes qui meurent. L'Afrique est l'avenir du monde. On ne peut pas laisser l'or sous nos pieds pour aller chercher le cuivre. Parce qu'en fait, les métaux également, chacun a sa valeur. Et les plus importants, vous trouverez de l'or, le diamant, l'uranium et autres.
Merci.
Et l'avenir du monde.
Merci, merci.
C'est le paradis.
Merci beaucoup, M. Lipoti, pour ce témoignage inspirant. Et surtout merci pour le travail que vous accomplissez à travers la REC, source d'espoir pour de nombreux jeunes. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère vraiment que votre parcours motivera de nombreux jeunes à explorer des opportunités chez eux. Merci également à vous, chers auditeurs, de cet épisode. Rejoignez M. Lipoti dans notre communauté ESLD sur www.esldcommunity.org. À bientôt.